Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Chers auditeurs,
dear listeners,
bonjour.
Welcome to Comme d'Archi Podcast Season 5.
Saison 5, dans le monde fascinant des architectes.
And in the architectural projects.
Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history.
Merci.
Thank you.
D'être avec moi aujourd'hui.
To be with us today.
Et
and
maintenant,
now,
lundi en français, place au talent.
And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
Bienvenue dans Comme d'Archi.
Merci à toutes et à tous d'être là aujourd'hui pour clôturer cette journée très dense et très riche de la 17e session d'Europan à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. L'enjeu de ce plateau aujourd'hui, c'est de réfléchir à une question qui était à l'origine de la création de Repan. Repan, c'est une idée française et une aventure européenne. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un petit peu moins d'équipes françaises qui vont participer à des Repans étrangers et un petit peu moins d'Européens qui viennent participer en France à Repan. Donc, on s'est dit, on va pas attendre le 40e anniversaire de Repan pour se poser cette question-là. Et on va clôturer cette journée par une parenthèse qui va offrir un retour d'expérience des anciens vainqueurs d'Europan étrangers qui sont devenus membres du jury. C'est peut-être ce qui va vous arriver bientôt. C'est ce que je vous souhaite. Et qui vont nous dire ce qu'ils pensent de cette aventure européenne aujourd'hui. Merci beaucoup. Et je cède la parole à Anne-Charlotte Despons et ce magnifique partenariat qu'on a avec Comme d'Architecture. Comme d'Archi.
Oui, voilà. Merci beaucoup Daniel. Bonjour à tous. Je vais commencer par vous inviter à vous présenter les uns après les autres et en même temps en profiter pour éclairer votre lien avec Europan, tout simplement.
Bonjour, John Eaton, membre de jury de Europan France, Europan 17. Je suis architecte, anthropologue et associé de l'agence New South, qui est une agence basée à Paris, mais je suis britannique. Mon associé est française. On a candidaté plusieurs fois à Europan. Je pense qu'on a commencé avec Europan 13, on a fait 14 où on était lauréat, 15 aussi. Et on a un autre projet à l'agence qui date de Europan 13, qui est actuellement en chantier. Je suis à chantier maintenant.
Alors, on est impatients de voir ce que ça donne.
Bonjour, Béatrice Saladic, je suis architecte et paysagiste. Je suis originaire de Barcelone et j'ai été aussi membre du jury séance 17, on va dire, et j'étais lauréate dans la précédente Europan 16 pour la ville d'Olna. Bon, lauréate mentionnée, on était mentionnée dans les sites d'Olna avec les projets Olna Centripète.
Voilà. Bonjour, donc moi c'est Charlotte Sampson. J'ai été diplômée il y a 3 ans, donc je suis un peu petite. Mais donc j'ai monté ma pratique avec mon associé Arthur Hunstadler qui est ici présent. Et donc il s'appelle PILXP, pratique, donc on fait de l'architecture, mais on essaye aussi de raconter la profession via des vidéos. Et donc notre aventure Europan, elle a commencé avec la 16e édition. C'était un peu particulier parce que c'était dans des conditions assez extrêmes, parce qu'on l'a fait 3 semaines avant le rendu. Donc c'était très particulier, mais on avait adoré faire ce concours-là, donc on a décidé de réitérer l'expérience pour cette 17e édition, mais là, dans de meilleures conditions. Donc, on s'est entouré donc de 3 autres auteurs, à savoir donc Marion Comte, Léa Malga et Jean-Pierre Cernin. Et la particularité, je crois que je suis pas la seule ici, mais on a fait 2 Europans pour donc cette édition. Donc, un à Rennes et l'autre en Autriche, à Graz. Et si vous avez suivi la journée, bah, vous avez vu qu'on a perdu à Rennes, mais donc on a fini runner-up à Graz.
Alors bonjour, donc je suis Nathanaël Pinard, membre du collectif Carré Noir. Et donc nous, alors l'expérience Europan, on avait déjà gagné à la session Europan 16 à Limoges, donc sur le territoire français. Et là, sur la session du coup Europan 17, effectivement, on a aussi fait du coup un site français à Florence et un site espagnol à Torre la Vega. Alors pourquoi un site espagnol? Parce que en fait notre collectif a aussi comme particularité donc d'être composé d'anciens de l'école de Clermont-Ferrand, mais aussi d'anciens colocataires Erasmus de Barcelone. Donc le lien avec l'Espagne aussi et le collectif était déjà formé.
Bonjour, moi c'est Yann Houlard. J'ai cofondé avec Marine Gatt et Fanny Picourla le collectif Maya. Notre particularité, c'est qu'on est avec Marine, on vit tous les deux à Barcelone. On travaille dans une agence franco-catalane qui fait énormément de projets en France. Et pour ce qui est d'Europan, c'était notre première fois cette année. On a eu la chance d'être coloréat sur le site de Le Palais avec la proposition Défendons les Palentins. Et donc voilà, on est en Espagne et puis on fait des projets en France.
Bonjour, c'est Elena Tejero, représentante de l'équipe Bocamal. Nous avons été lauréats dans cette dernière édition, 17, en Espagne, sur le site del Nalón. Et nous sommes une équipe franco-espagnole avec deux Espagnols et deux Français. Ils m'accompagnent ici. Quant à moi, je suis originaire de Madrid et travaille depuis 5 ans ici à Paris.
Bon, bah, déjà, bravo parce que vous parlez tous bien français. Alors moi, Anne-Charlotte de Ponte, je vais expliciter un petit peu. J'ai créé, je pense, comme d'archi parce qu'auparavant, je m'étais occupée du concours du prix W pour Jean-Michel Villemotte. Et après, je suis allée chez Architecture Studio où je me suis occupée des concours de la jeune architecture arabe. C'était juste après le printemps arabe. Et c'était incroyable. Du coup, ça m'a vraiment motivée pour créer un podcast qui soit à la fois en français et en anglais, ouvert à tous le plus possible. Alors, c'est peut-être un petit peu en tiraillement avec ce qu'on vit actuellement, qui est un repliement sur soi. Ça permet quand même d'être entendu partout dans le monde. On a été écoutés dans environ 140 pays. Du coup, on va interroger Europe 1 et sa dimension européenne. Première question, qu'est-ce qui, à votre avis, motive les équipes étrangères à la France pour venir postuler sur ce concours? Qui veut prendre la parole?
En fait, on s'est présenté en tant qu'équipe étrangère, même si moi, j'habitais à Paris au moment dont on s'est présenté. Mais je crois qu'il avait... voilà, en Espagne aussi, on comprend Europe 1 comme une opportunité justement d'aller en Europe pour les noms lui-même. Et on est notamment habitué à postuler ailleurs en Europe et pas autant de postuler chez nous. Bon, c'est le cas parce qu'il avait cette motivation-là d'abord. Et après, c'est vrai que, bon, est-ce que c'est à l'envers, non? Il avait aussi cette question de, on va dire, pourquoi il n'a pas autant d'équipes étrangères qui postulent en France aussi, non? Bon, peut-être c'est un peu complémentaire. Je crois que il avait quelque chose. C'est la langue, une des facteurs principaux, parce que quand on postule en Autriche ou en Allemagne, c'est tout postuler en anglais ou quelque chose comme ça, ou même en Espagne. Ici, c'est vrai que c'est la langue, mais aussi les langages des projets. Même en tant que membre du jury, on a perçu un peu un langage commun qui faisait que voilà, en tant que jury, membre de jury français avec un regard étranger aussi, il avait plein de choses qui parlaient, voilà, parce que c'est les mots qu'on utilise. Aussi, il a beaucoup de commandes publiques en France. Donc, je crois aussi, ça fait un langage qui est peut-être difficile à aborder quand on est en équipe étrangère où on n'a pas les mêmes outils, peut-être. Et bon.
Alors, l'intelligence artificielle arrive. On va pouvoir dépasser ça bientôt.
Oui, mais c'est plutôt la manière dont on s'exprime dans les projets. Je ne sais pas comment exprimer ça de manière claire, mais c'est aussi les acronymes, toute l'histoire un peu de comment on fait la ville en France, en fait, qui est un peu difficile à approcher, surtout dans la phase qu'on a eue opérationnelle, et parce qu'on était deux membres de l'équipe étrangère, qui on avait déjà travaillé en France ou étudié en France, on avait une approche un peu, voilà.
Ça, alors en effet, j'avais déjà interviewé des jeunes architectes espagnols qui me disaient qu'il y avait quand même des spécificités qui étaient, et la manière de faire était différente. Néanmoins, on est quand même dans un langage commun.
Oui, mais c'est surtout l'approche des...
Yann,
oui,
qui voilà. Veut
réagir. Non, justement, ouais. ce que j'allais dire, c'est que je crois que c'est ça qui motive, c'est le fait qu'on vient d'ailleurs. La culture, elle est différente. Les façons de faire la ville le sont aussi. Nous, on voit bien qu'à Barcelone, la façon de faire la ville, elle est bien différente. Et ce qui motive à venir en France, c'est aussi apporter ce regard extérieur, venir le croiser au regard français. Et je pense que c'est ces propositions qui sont, du coup, peut-être en dehors de ce qu'on a l'habitude de voir ici en France, qui poussent les équipes étrangères, ou en tout cas, même si nous, on est français, On a une pratique quotidienne de l'urbanisme et de l'architecture qui est différente, qui nous a poussé à venir en France et peut-être dire des choses un peu différentes.
C'est peut-être en phase concours qui est, voilà, qu'on a cette motivation-là et qu'on attend de ça. Après, en phase opérationnelle, c'est un peu différent. C'est aussi parce qu'en phase opérationnelle en Espagne, on aborde Europan comme des concours, on va dire, qui après ont des commandes publiques de suite. Mais c'est plutôt des, comme on parlait ce matin dans le pan originel, que c'était des projets un peu prototypes ou des projets pilotes, quelque part, non? Et ici, quand on rentre en phase opérationnelle, après, on a un petit gap. Je crois que c'est commun pour... c'est pas un truc d'étranger ou pas, mais c'est juste l'approche, peut-être en Espagne, d'Europan. On voit ça comme un truc un peu différent qui va s'aborder aussi différemment parce qu'il va pouvoir... peut-être avoir des équipes étrangères qui viennent sur place. Donc, c'est pour ça.
La façon de faire projet en Espagne est vraiment différente de la façon française. Et enfin, il y a tout un process de projet qui est plus technique, plus réglementaire qu'en France, parfois. Et je peux comprendre, enfin, un Français qui arriverait en Espagne pour faire projet, s'il gagne, et c'est tout ce qu'on lui souhaite, il y a une vraie barrière d'un de la langue, qui peut être aussi parfois régionale. Quand on participe en Catalogne, si on maîtrise pas ou au Pays Basque, si on maîtrise pas le basque ou le catalan, ça devient un vrai frein parce que le fonctionnement des administrations, et c'est avec des langues régionales.
Oui, puis au Pays Basque, enfin, je sais pas, je peux pas parler pour la Catalogne, mais au Pays Basque, il y a un vrai caractère aussi.
En tout cas, en Espagne,
du contexte. Nathanaël.
Et dans le prolongement, pour illustrer un peu ça, il y a les forums intercession en fait entre chaque session Europan. Et du coup, on était présent au forum intercession Europan 16, Europan 17. Et dans le cas d'une table ronde, il y avait eu un échange entre les membres d'Europan France, Europan Espagne, Europan Italie. Et tout leur débat, c'était sur quelle est la stratégie adoptée, parce que en France. Il y a vraiment un accent très fort qui est mis sur le côté innovation, liberté d'expression. Du coup, ne pas donner un cadre trop fermé. Alors certes, il y a déjà des comités de communes ou des montages de maîtrise d'ouvrage. Une question qui est posée, mais ensuite laisser tous les ouverts possibles pour que les concepteurs arrivent et puissent projeter leurs imaginaires. Sachant que du coup, la contrepartie, c'est que derrière, une fois qu'on a gagné, pour avoir la réalisation, c'est beaucoup plus complexe. Et les statistiques de réalisation concrète, réelle, de projets européens en France... sont pas très élevés.
Donc la transformation est difficile.
Voilà, c'est-à-dire que d'arriver à un projet construit, c'est très complexe. Par contre, ça laisse un champ très grand pour essayer d'apporter de nouveaux modes de gouvernance. Notamment sur la question politique, c'est particulièrement là que ça se joue. À l'inverse, que défendaient les Espagnols et les Italiens dans leur débat en interne, on va dire, c'était qu'eux, ils avaient un montage où ils disaient, certes, il faut l'innovation. Alors, du coup, je ne dis pas du tout qu'en Espagne, en Italie, il n'y a pas d'innovation, il y en a une. Mais il faut d'abord un pragmatisme dans le montage opérationnel des choses. Et c'est aussi lié à la relation qu'a Europan avec chacun des pays. Par exemple, dans le concours en Espagne, quand on lit le brief du concours, on a quasiment, en introduction, un contrat de concours avec le tampon du ministère des Transports, Mobilité et Agenda Urbain, qui est tamponné, parce qu'en Espagne, alors je sais pas, quelles proportions ils sont fusionnés, mais Europan Espagne est vraiment totalement sous tutelle du ministère des Mobilités. Du coup, ça fait que le cadre du projet, c'est déjà beaucoup plus aussi dans le pragmatisme et donc dans l'opérationnabilité. Donc quand ils nous donnent un site avec une thématique, il faut répondre à la thématique. C'est-à-dire que la possibilité de venir d'essayer de transformer, de dévier le regard est moins grande. Ce qui fait que quand on a une équipe française... Du coup, donc c'est l'inverse de la question, mais quand on a une équipe française qui va en Espagne, on se retrouve face à un choix un petit peu cornélien, parce qu'on regarde le site, on a la réponse que tu pourrais faire sur le site, juste pour répondre aux questions, donc réponse, et on a en même temps l'envie de dévier cette question. Et donc on doit se dire, soit je prends le risque de sortir du cadre en sachant que les Espagnols ne l'apprécieront pas forcément au moment du jury, parce qu'ils vont se dire, c'est pas réalisable dans le montage qu'on a créé, soit on répond simplement à la question, et du coup, on se bride. Et ça, c'est une question... de culture, il n'y a pas de système qui est meilleur que l'autre, parce que on peut aussi simplement se dire, dans le cadre qui est donné, là innover d'une autre manière. Mais c'est quelque chose sur lequel il faut se positionner, et ce n'est pas toujours évident.
Alors, n'hésitez pas à vous représenter quand vous prenez la parole. pour qu'on vous identifie bien.
Après, c'est vrai, je ne sais pas si c'est le processus. Du coup, Elena Tejero, pardon, j'ai refait, représentante d'une équipe lauréate en Espagne, une équipe internationale. On est deux Espagnols et deux Français. Du coup, notre choix, ça a été un peu intuitif. Juste pour répondre à la question de pourquoi on répond dans un autre pays, on n'avait pas un choix prédéfini. On a étudié les sites des France et d'Espagne et c'était presque intuitif. On avait envie de faire une échelle un peu plus grande, territoriale et un endroit beau. C'était aussi simple. C'est comme ça qu'on est arrivé à choisir.
Qui vous a inspiré et qui a arrêté votre choix.
Et par contre, ce que vous expliquiez avant du montage des derrière, nous, quand on s'est présenté, on ignorait qu'est-ce qui allait se passer derrière. Maintenant, on sait qu'il y a, on va dire, l'organisation des repas en Espagne, ça fait qui est lauréat d'un projet. C'est préparé comme un appel d'offres public. Du coup, il y a un transfert ensuite aux administrations. Ça passe du ministère à l'administration territoriale et régionale du site. Mais nous, on ignorait ça et on a abordé un peu la question du territoire, la question du paysage, la question architecturale, puisqu'on est allé un peu jusqu'au bout, des façons indépendantes à cette montage de l'après, qui est très important, parce que c'est ça qui est après... c'est intéressant, ça fait que les projets arrivent au bout ou pas.
Concrètement, quand on lit le rapport du jury, je ne dis pas que dans France, on aurait été premier du tout, mais dans le rapport du jury, donc on a parce que nous, on est arrivé runners-up, du coup, on a le lauréat. Qu'on décrit pourquoi les lauréats, voilà, ils ont répondu, c'est un enjeu sur une place au niveau d'une gare pour désenclaver un quartier, pour simplifier. Mmh. Du coup, ils ont répondu, en dessinant la place, en fait. Et du coup, très bien, pas de souci. Nous, dans le rapport du jury, on a dessiné la place, mais on n'a pas mis l'accent dessus. C'est-à-dire qu'on a refait le quartier, on a refait une politique de développement du quartier dans lequel s'inscrit la place. Mais en fait, du coup, la place est dessinée, mais on a beaucoup moins un focus dessus. Donc, c'est moins clair ce qui spatialise. Mais par contre, ça donne les problématiques de comment on le fait dans un autre contexte. Mais du coup, dans le jury, le rapport, ce qu'ils ont mis, c'est ce projet est très bien, on adore, mais par contre, c'est hors sujet. Mais comme il est très bien, on va quand même le mentionner, mais par contre, on va pas le faire, quoi. Du coup, on retourne à une situation un peu pas ubuesque, que je comprends pour les raisons qu'on vient de dire. Mais ça pose question sur le fait qu'en fait, on doit prendre une décision. Est-ce qu'on veut être porteur d'une posture vraiment où on dit non, ce qu'il faut faire, c'est casser la gouvernance politique, ou est-ce qu'on prend une posture où on dit non, il y a un cadre? Et on respecte le cadre. Parce qu'en France, c'est vraiment, alors en dehors des débats sur réemploi, paysage, vie vivante, etc., qui sont tous les données que nous, après, on met dedans, la première porte d'entrée, c'est changer la gouvernance. Et c'est ça vraiment le truc qui permet de le faire. Du coup, quand on est dans un contexte où il y a une gouvernance qui est déjà posée, ça veut dire qu'on peut innover, encore une fois, mais pas sur ce sujet-là. Et donc ça, c'est ni meilleur d'un côté ni de l'autre, parce que du coup, leur pourcentage de réalisation est bien plus élevé, et c'était pour ça qu'ils avaient un débat en interne. Mais le fait d'avoir ces deux systèmes qui sont pas du tout en accord, ça fait que quand on passe d'une frontière à l'autre, il faut en être conscient, sinon on est désavantagé. Et il faut accepter la conséquence.
Mais dans ce cas, je crois que c'est exactement, on pourrait dire, la même chose à l'envers. Non, à la fois pour l'expérience qu'on a eue aussi pour savoir présenter un concours ici et tout, nous, on avait la chance d'entre nous aussi qu'on travaillait, on était espagnols, mais on travaillait en France. Et du coup, d'une certaine manière, on savait un peu, ce que vous nommez comme les données un peu qu'il faut rentrer dans les projets. C'est quand même des données d'entrée. Donc, peut-être en Espagne, c'est un truc plus pragmatique de répondre à la question, peut-être programmatique ou un peu rester dans les trucs. Et tu peux innover plus peut-être en... Je dirais, c'est plus architectural les questions, non? Et du coup, tu peux innover plus dans la forme, dans les, dans l'espace. C'est l'approche, je crois qu'elle est totalement différente déjà en termes d'échelle. Mais ici, je dirais que c'est l'inverse. Du coup, c'est une approche plus, de parler presque aux élus, je dirais, et de rentrer toutes ces données-là que j'ai trouvé un peu, en espagnol, on a ces trucs un peu pragmatiques. On veut comprendre ce qui se passe.
C'est un peu moins rassurant en France, c'est ça?
Quoi?
Vous sentiez moins cadré en France.
Mais après, il a des cadres. Pour moi, ça, c'est un cadre aussi. Enfin, tout ce que vous disiez sur les données qu'il faut rentrer, parce que c'est les mots qu'on entend aussi quand on est dans les marchés publics. Pour moi, c'est aussi une donnée qu'une équipe étrangère, peut-être qu'elle ne connaît pas les mots. Hein. Enfin, nous, on connaissait les mots d'une certaine manière parce qu'on travaillait ici sur des sujets un peu similaires. Du coup, Voilà, après,
je crois qu'on est en France vraiment dans la notion de territoire.
Oui, peut-être. Hein? Oui, peut-être. Ouais. Donc,
je suis d'accord.
Je pense que moi, j'ai pas fait beaucoup de. J'ai fait un Europon à l'étranger. C'était pas un très bon projet. Et on n'a pas hyper bien compris le contexte. Mais tous les Europons qu'on a fait en France, je pense que ce qui nous intéressait, c'était la complexité du site à chaque fois. Les complexités des enjeux, qui fait qu'en fait, il n'y a pas vraiment de cadre. Le cadre, c'est que on ne sait pas ce qu'on va faire avec ce terrain. En fait, c'est problématique. On cherche des idées un peu désespérément, de temps en temps. Et du coup, il faut se mettre dans une posture où on a une espèce de brief de conco, un cahier de charge qui peut être extrêmement détaillé. Et il faut un peu ignorer, en effet. Et j'avoue que la seule fois que on n'est pas allé faire des visites de site avant de postuler, c'est le moment où on a été lauréat. je pense qu'il y a vraiment une particularité de Europe en France. C'est pas, peut-être pas le cas pour tous les sites, mais une grosse tendance quand même, où il faut un peu avoir un regard
du recul.
Et je pense que c'est justement si des équipes étrangères peuvent se mettre dans cet imaginaire, c'est une raison pour laquelle ils peuvent trancher. Justement, si on regarde l'extérieur, c'est une autre façon de faire. Mais il ne faut pas attendre que c'est la même suite qu'on pourrait voir en Espagne, par exemple, parce que ce n'est pas le même enjeu. Il faut aussi comprendre qu'en effet, c'est beaucoup moins probable qu'on va avoir une commande après. C'est un peu galère, en fait, souvent.
Oui, mais en même temps, le terrain de jeu est incroyable. Enfin, moi qui ai commencé à interviewer des lauréats ou des mentionnés Europan depuis Europan 16. Et d'ailleurs, Nathanaël est venu au micro de Comdarchi. Dans ce cadre, je me rends compte qu'il y a un zoom et des zooms permanents. Enfin, je trouve que quand on est un jeune architecte, d'avoir cette possibilité à la fois de se confronter au territoire et à l'architecture, voire même à une échelle plus petite, c'est incroyable. Est-ce que vous êtes d'accord?
Oui, mais par rapport à tout ce qui est dit des contraintes du lieu dans lequel on arrive et des possibilités de rencontrer des difficultés parce que la façon de faire n'est pas la même, c'est justement, je pense, ce qui est intéressant. Et c'est en arrivant, quand on dit qu'on veut participer à Europan ailleurs que du pays de là où on vient, comprendre le site, c'est pas juste comprendre l'endroit où on fait le projet, c'est aussi comprendre comment fonctionne l'écosystème des acteurs, et c'est aussi accepter que le rôle de l'architecte en fonction des pays est pas forcément le même. L'architecte en Espagne, parce qu'on parle de l'Espagne, ou l'architecte en France, a pas du tout le même rôle, et donc si on commence à comprendre un peu comment fonctionne la profession là où on va, je pense que c'est là où on peut commencer à avoir des réponses qui vont plaire au jury du pays dans lequel on intervient.
Et aussi, en comprenant comment fonctionnent les architectes dans les autres pays, que ce soit européen ou même la pratique juste architecturale, parce que c'est vrai que l'architecte espagnol, c'est pas du tout la même chose. Ils peuvent signer des plans, enfin, vous m'arrêtez si j'ai des bêtises, mais ils peuvent signer des plans structure, ils ont le rôle que de chez nous auraient des ingénieurs. Alors pour nous, c'est vraiment des
personnes
différentes, quoi. Et ils ont un poids dans les discussions, exactement, qui sont pas tous les mêmes. Donc, comprendre ça, comprendre comment ils font, ça nous permet aussi de nous réinterroger sur notre propre pratique à nous, sur notre profession dans notre pays, se dire pourquoi certains sujets peut-être peuvent à nous être plus chers, peut-être sur d'autres choses, au contraire s'inspirer de ce qu'ils font eux et comprendre les raisons pour lesquelles ils le font, pour tirer le meilleur parti et ensuite se positionner en tant que professionnel. Et après un petit point aussi sur la question des termes, parce que tout à l'heure quand vous discutiez, il y avait d'un côté la question de traduire, effectivement par exemple avec une IA ou est-ce qu'on veut, mais on peut traduire littéralement le sens des mots et obtenir un texte qui est lisible. Mais les jeux de concepts qui s'y raccrochent, par contre, ça ne marche pas du tout. Certains termes propres à la profession, je sais pas moi, ville organique, sol vivant, ou je ne sais.
Pleine terre.
Certains.
Pleine terre en Espagne, ça n'existe pas. Ouais. C'est incroyable.
Mais il y a des concepts en fait qui peuvent être traduits, mais il y a des concepts qui n'existent pas. Ouais. Et oui, pour info, ma copine est espagnole et architecte. Donc quand moi je fais mon texte, j'envoie pour qu'elle le traduise.
Alors est-ce que
je peux vous dire, ça n'a pas marché.
Parce que là, on est très focalisé sur l'Espagne. Mais il y a dans d'autres pays, parce que, alors, en revanche, j'ai fait des interviews avec des architectes américains, et maintenant ça commence quand même à plusieurs, dont SOM, je suis très fière. J'ai pas ressenti ça vraiment.
Peut-être aussi que, enfin, le rôle des architectes en anglo-saxon est plus proche de celui de l'architecte français que celui de l'architecte espagnol parce que c'est de ce dont on parlait. Et l'architecte espagnol, c'est un vrai constructeur. C'est une personne qui, quand elle devient architecte, elle sait construire de A à Z un bâtiment. Et ce qui n'est pas le cas en France.
Et alors, en fait, je pense que les anglo-saxons et les français ont quand même des nuances. Mais c'est vrai que la nature de la différence n'est pas la même. Et du coup, on va la sentir, mais pas au même moment. C'est-à-dire, je pense effectivement, les architectes espagnols, ils ont une globalité de leur approche qui les amène aussi, du coup, à avoir un point de vue technique plus fort. Ce qui est retranscrit jusque dans le montage d'Europan, parce qu'il retranscrit dans, ça a plein d'impact, en fait. Donc, il y en a beaucoup, je pense, honnêtement, il y en a beaucoup qui sont très positifs pour la profession également. Sur quelques points, du coup, bah, peut-être, par exemple, là, on le voit avec la question de l'innovation, de casser le mode de gouvernance et tout, de sortir du constructeur, mais devenir peut-être un acteur politique. Là, peut-être que les Français ont un lead. Mais si on regarde maintenant, en mettant les anglo-saxons, ils ont souvent plutôt des très grandes structures. Et ils ont des modèles où ils ont une structure à des architectes, mais il y a aussi des ingénieurs en interne, mais c'est quand même pas la même personne. Donc, si on parle à l'architecte américain, il n'y a peut-être pas une différence, mais si on parle à l'agence américaine d'architecture, ils auront les économistes, les ingénieurs, etc. Et en fait, ils vont finir par prendre tous les rôles comme le font les architectes espagnols. Simplement, l'architecte espagnol le porte sur lui, alors que dans le cas américain ou anglais, ça va être la structure qui le porte. Donc, en fait, il y a toute une pluralité de cas comme ça. Et c'est vrai, par exemple, comme tu le disais, que quand on le comprend, du coup, on s'interroge encore une fois sur notre propre statut là-dedans. Et donc, que ce soit dans la profession en général ou dans le cadre d'Europan, c'est très intéressant. Par contre, ça amène aussi des problématiques.
Après,
ça peut être des frontières.
Je pense que c'est important aussi de souligner une envie un peu plus naïve, juste de faire un projet ailleurs, comme tu disais avant, juste de comprendre une situation hors de notre culture, une autre culture, de comprendre une autre sol, de comprendre une autre façon d'habiter les territoires, un autre paysage. Et je pense que c'est ça qui est très, enfin, qui en aime en tant que concepteur.
Donc une curiosité.
Exactement.
Mais c'est intéressant parce que on vit une période de repli et on se dit est-ce que à partir de Bilbao, de Guggenheim, il y a eu une ouverture. Enfin, il y avait beaucoup d'architectes qui postulaient dans des pays différents, etc. Et aujourd'hui, les cartes sont très nettement rebattues. Et pour le coup, est-ce que cette visibilité, le côté être visible à l'étranger, est-ce que c'est bien utile, etc. Est-ce que vous posez ces questions-là?
Moi, sans parler de la visibilité et pour répondre justement à ce dont tu parlais de curiosité, ce qui nous a frappé en fait quand on est allé en Autriche, pour la remise des prix, il y a toute une autre démarche comparativement à la France. C'est que on a fondamentalement pas du tout le même rapport à Europan qu'on a en France et visiblement en Espagne, parce que je vois les mêmes rapports. Parce qu'en fait, là, je le vois très bien qu'il y a un rapport extrêmement entrepreneurial à Europan. La majorité des équipes françaises le font dans le but d'accéder à la commande, mais aussi parce que c'est le reflet du système français, puisque les concours sont réglementés par la MOP, tout ça. Et donc finalement, pour les jeunes praticiens, la seule façon d'accéder à la commande publique, c'est via Europan. Et c'est pour ça que beaucoup de Français participent en France, parce que eux ont une visée entrepreneuriale. Donc, nous, quand on allait en Autriche, ce qui était assez drôle, c'est donc Iris, qui était la représentante Europan Autriche, elle était même étonnée de voir des Français, parce que elle disait, mais pourquoi vous n'avez pas concouru en France? Parce que, bon, nous, on avait aussi concouru en France, mais elle était étonnée parce que elle avait cette vision des Français qui concouraient pour accéder à la commande. Mais c'est vrai que quand on regarde les projets construits, donc ceux qui passent des projets de papier à projets construits, en France, il y en a très peu. En Autriche, mais c'est 20 000 mètres carrés, des centaines de logements, c'est vraiment des très grosses opérations. Je sais pas comment ils font leur montage, mais je pense que ils le font avec des maîtrises d'ouvrage privées, que c'est pas seulement des marchés publics. Donc ça amène à une autre question.
Oui, c'est très paradoxal, en fait.
En fait, c'est là où on voit qu'on n'a pas du tout les mêmes rapports. Et en fait, En Autriche, même eux, en fait, comme les concours sont très peu réglementés, il y a très peu de concours en fait dans ces pays-là. Nous, en France, on a genre 3000 concours par an, alors que le second pays, l'Allemagne, ils ont genre 800. Rien que ça, alors que on est les deux seuls pays dont les concours sont réglementés. Et en fait, en Autriche, qui est un pays quand même bien moins concurrentiel au global sur les concours, pas que sur Europan, qu'en France, eux, en fait, comme les concours sont moins réglementés, les maîtrises d'ouvrage qui font appel au concours, c'est dans un souci de bonne pratique, d'exemplarité, et pour aussi ouvrir la voie aux jeunes praticiens, alors que nous, c'est tout l'inverse, il faut qu'on fasse des Europan justement pour essayer d'accéder à la commande. Donc en Autriche, eux ont assez peu d'intérêt finalement presque à faire Europan, parce que autant faire un concours qui va vraiment être construit, où il y a une certaine débouchée officielle. Et ce qui est intéressant, c'est que donc la vision d'Europan en Autriche est bien plus poétique, littéraire et bien moins ancré justement dans les politiques parce que en fait les autres concours qui sont moins réglementés sont dans cette veine-là. Et finalement, nous, c'est aussi, je pense, c'est pour ça qu'on a gagné aussi. C'est parce que
mais poétique à l'échelle vraiment architecturale ou c'est...
Non, c'était un projet très urbain. Après, ouais. Ils font aussi des projets plus resserrés, mais nous, c'était un projet très urbain. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a remporté, alors qu'on n'y était pas allé. Mmh. C'est parce que justement, en fait, ça nous a permis aussi une liberté qu'on n'aurait pas eu en France. Quand on voit notre proposition française et notre proposition autrichienne, elle n'est pas du tout pareille, parce que forcément, on n'y est pas allé. Et c'était très intéressant de voir justement cette ambiguïté des rapports.
Alors là, je pense qu'on a à peu près cadré le contexte européen. Maintenant, moi qui ai suivi, enfin même préparé un concours de la jeune architecture arabe, j'ai constaté que d'un point de vue géopolitique et sociétal, il y avait des choses qui ressortaient qui étaient à la fois, enfin qui étaient très vives. Ma question, c'est est-ce que vous pensez que Europan, par exemple, peut, à une échelle plus large, porter une idée de construction, de reconstruction ? Et ben, je pense aux pays arabes, notamment, surtout en ce moment où c'est tellement douloureux. Sans rentrer dans des prises de position du tout, c'est pas ça que je veux dire. Moi, j'ai le souvenir que quand j'étais chez Architecture Studio, la jeune architecture arabe avait vraiment permis de créer un élan. Alors, c'est vrai que quand on avait reçu les projets, il y avait des projets très néo, entre guillemets. Il y avait la place de la femme qui se posait parce qu'elle pouvait difficilement participer. Mais ça n'empêche que ça a créé une énergie et ça a rassemblé. Est-ce que vous pensez que Europan peut, enfin, ce serait pertinent d'élargir ou pas?
Oui, avec la compréhension que l'Europe n'est plus forcément le centre du monde.
Ah, et, mais ouais. Justement, il ouais. Y a le positionnement ouais. De l'Europe aussi.
Ouais. Du coup, je pense que ce serait intéressant d'avoir une collaboration qui visait à adapter Europan à un autre contexte et pas juste de, soi-disant, reproduire le modèle Europan dans le monde arabe, par exemple. Parce que je pense que, juste pour retourner très brièvement à la discussion sur les thèmes, je pense que c'est aussi des codes qui sont un peu difficiles à qualifier, mais il y a une espèce de, enfin, un code graphique, un code imaginaire, de l'imaginaire, quand on pense à l'architecture de la ville et comment ça devrait être, ça implique des questions de droits, des femmes ou autres. Et du coup, il s'agit, quand on exporte un concours ou un modèle de concours, de promouvoir, en effet, les valeurs européennes, peut-être, si c'est un modèle monolithique, tout en gardant en tête que des fois, il y a des valeurs différentes qui sont a priori, ils ne sont pas compatibles, mais ça ne veut pas dire que c'est toujours problématique dans le contexte. C'est difficile à qualifier, mais...
Peut-être qu'en ce moment aussi, c'est encore plus vif.
Ouais. Du coup, oui, je dis oui avec un mais.
Dans ma réflexion et ma préparation, il y avait ce mais aussi. Donc, ouais.
Ce que j'allais dire, c'est que sur l'expansion un peu d'Europan, c'est souhaitable. Mais je pense que ce qui est aussi important, aujourd'hui, Europan, c'est très national en réalité. Il y a Europan France, Europan Espagne, etc. Et même nous, dans notre pratique là, on a gagné Europan France. Et en fait, on ne fait que parler aux Français. Enfin, en tout cas, jusqu'à présent, on n'a parlé qu'aux Français. Et ce qu'on se demande, nous, au collectif Maya, c'est est-ce qu'on a tous défendu des thèmes qui n'étaient pas forcément les mêmes? On a tous parlé pas forcément des mêmes sujets. Et ça peut être aussi intéressant de, au-delà de faire des rencontres ville-territoire française, ça aurait été très intéressant, par exemple, dans notre cas, de pouvoir parler avec tous les gens qui ont traité du sujet de l'eau, de la submersion marine, pour justement qu'Europan devienne un vrai moment d'échange où on peut apprendre, on peut avoir des regards croisés et on peut créer de la richesse. Oui. Intellectuel grâce au concours.
Ouais, je suis tout à fait d'accord et c'est vraiment ce qui nous a marqué aussi en Autriche, c'est que pour le coup là, il y avait énormément d'équipes franchement qui venaient de partout et là on avait vraiment ce sentiment, chacun a expliqué d'où il venait, comment est-ce qu'il pratiquait. C'est là où justement on a eu énormément d'échanges sur leur Europan respectif, comment ça fonctionnait et en fait, ça se voyait aussi même dans l'organisation qu'Europan, Autriche, Estonie avaient fait, parce qu'ils ont fait en sorte aussi que ces rencontres se passent, parce qu'ils n'avaient pas organisé juste une soirée remise des prix. Ils ont fait vraiment un week-end, ils ont invité tout le monde, ils ont fait des visites, ils ont fait un petit pèlerinage architectural qui présentait d'autres projets Europan qui avaient été réalisés. Et donc, j'avais trouvé ça très riche qu'on puisse échanger vraiment avec d'autres nationalités. Et ça, c'est, je trouve que c'est un peu ce qui manque parfois avec Europe en France, qui est plus dans son entre-soi.
Et juste pour terminer sur le sujet de la visibilité dont on parlait tout à l'heure, je pense que c'est ce qui est intéressant, c'est pas forcément la visibilité internationale, mais c'est la visibilité pour les gens qui traitent des mêmes sujets que nous. Et ça entraîne forcément une certaine internationalité, hein, en quelque sorte. Mais en tout cas, pouvoir parler à l'échelle européenne et voire mondiale des sujets qu'on partage.
Sur deux sujets, déjà sur effectivement ce sujet-ci, je pourrais donner aussi le spectre de ce qui se passe en Espagne. Pour l'instant, il ne s'est rien passé. On n'a pas eu d'échange ni en Espagne, ni à l'international, ni rien. Donc, je vois qu'en Autriche, vous avez déjà eu des flux, etc. Et bon, en France, on est là, il s'est passé des choses. Donc, j'avoue que je ne saurais même pas dire comment c'est en Espagne, parce qu'on sait que les lauréats, du coup, ceux qui vont construire, ont été reçus par pour les mairies. Mais après, les grands débats, les grands forums, peut-être qu'ils auront lieu, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est même pas créé. Donc, peut-être aussi qu'ils pourraient échanger entre pays pour essayer de dépasser les frontières par thématique, mais aussi pour se mettre d'accord sur un minima de communication, d'échange et de débat.
D'accord. Donc, en fait, de plus d'échanges pour stimuler encore davantage.
Ouais, ouais. De naissance à Europan. Hein.
Et après, je trouve, dans l'ouverture plus globale au monde entier, bon, bien sûr, ça peut amener du bon, mais il y a aussi un risque, c'est que ça dilue un peu aussi la pertinence des propositions, mais aussi des villes qui sont proposées, parce que là, c'est vrai que déjà les briefs français, les briefs autrichiens étaient très différents, mais en tout cas toutes elles traversent les mêmes problématiques. Et j'imagine que si on ouvre à plein de pays, il y aura plein de nouvelles villes. Et je suppose qu'il y aurait même des débats fondamentaux sur les enjeux que chacun souhaite protéger, développer. Et finalement, j'imagine que ça peut aussi dévier les valeurs que souhaite mettre en valeur, mettre en exergue Europan. Donc c'est un peu aussi une porte ouverte à la dilution de la pertinence et peut-être potentiellement du prestige d'Europan. Mais ça peut aussi l'augmenter. Mais en tout cas, je pense que ça demanderait énormément de temps et de contrôle, quoi.
Bah, tout en prolongation, alors, et aussi un peu comme tu aurais été dit, un oui et un mais. C'est-à-dire en oui pour cet élément-ci, c'est vrai que l'ouverture à d'autres pays, ça peut diluer. C'est aussi que ça va nous amener, effectivement, comme tu le dis, à poser d'autres questions. Et je pense que les enjeux, les débats qu'peuvent avoir les différents pays d'Europe, bien qu'il y ait des diversités, ce sont des pays qui globalement, alors à des degrés divers, mais ont quand même le même niveau de développement urbain, paysager, etc. Ils ont, avec des variations, mais des débats malgré tout en partie uniformisés. Si on commence à ouvrir, par exemple, sur des pays du Sud, ce qui est intéressant, c'est que ces pays-là, ils sont pas du tout au même moment de développement. C'est-à-dire que la plupart, en tout cas, des espaces concernés sont en des booms de développement gigantesques. C'est-à-dire qu'en quelques années, démographiquement, ça explose. Les problématiques que nous, on a pu avoir sur un temps long, eux, ils l'ont en version compressée. Et ça mène à d'autres thématiques, à d'autres approches. Ils n'ont pas eu tout la même culture de la question. Mais du coup, je trouve que ça, c'est plutôt en faveur, dans le sens où la rencontre d'une culture européenne et d'une culture autre, ça peut mener des choses très intéressantes, dans le sens où nous, on a un retour d'expérience sur ce qu'on a fait, tandis que eux, ils vont le vivre maintenant. Donc ça, c'est plutôt le oui. Mais après, dans le mais, il y a aussi le fait que toi, tu évoquais la question du printemps arabe. Il a été aussi, en ce moment, quand on préparait le brief, évoqué la question de l'Ukraine. Donc plutôt des pays qui sont en crise et qui sont en partie précarisés. Là, ça m'interroge sur deux choses. Un peu comme ce que tu disais, il y a la question à peu près d'un... Faut pas tomber dans une forme de néocolonialisme où on viendrait avec des réponses.
Oui, alors voilà, ça,
je jeune et là, le plaqué, quoi.
Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais l'idée, c'est peut-être de leur donner des outils qui leur permettent justement de se resolidifier.
Ouais, mais ça veut dire qu'il faudra des règles du jeu.
Un outil de résilience pour eux-mêmes, en fait.
C'est ça. Mais du coup, ça veut dire que les règles du jeu devraient être très différentes, drastiquement. Parce qu'en plus, un pays qui est précarisé, du fait d'une guerre, hein, j'entends dire, du fait d'une destruction, d'une fait d'un traumatisme, quel qu'il soit, sinon on arrive et qu'on commence à inonder aussi leur pays d'architectes étrangers, etc. Enfin, j'imagine, je sais pas, moi, l'architecte ukrainien qui veut participer à la construction de son pays, et soudainement, il a 15 000 architectes du monde entier qui viennent pour aider. C'est une richesse, donc ça reste positif, c'est bien.
Oui.
C'est bien. Mais il faut pas que ça étouffe la création et la capacité des architectes ukrainiens. Donc peut-être qu'il y aura des règles du jeu où ce sera des partenariats. C'est-à-dire que là, peut-être une bonne méthode, c'est de dire qu'il y a des collaborations qui se font, ou alors qu'on peut participer là-bas, mais qu'il faut que l'équipe ait au moins, je sais pas, un membre ukrainien ou un membre du pays.
Oui, c'est quelque chose, l'idée, quoi. L'idée, en fait, que je suggérais, c'était plus dans vraiment pour qu'ils se réapproprient leur, enfin, oui, qu'ils aient, une méthode pour se resolidifier à l'intérieur de leur, mais après, de leur territoire.
Par rapport à ce que tu dis, ça boucle peut-être la boucle du début. C'est-à-dire peut-être que nous, si on arrive là-bas, en n'ayant pas les connaissances du site, nos réponses ne seront peut-être pas autant aussi bonnes que les gens qui sont là-bas. Donc peut-être que les réponses seront plus riches des gens qui ont vécu ou qui habitent l'endroit plutôt que ceux de gens qui arrivent.
C'est vrai. Mais écoute, c'est un problème, parce que ça sert à quoi qu'on vienne si c'est pour faire une réponse qui est à côté. Du coup, c'est pour ça que je dis que peut-être la question, c'est qu'eux, ils connaissent leur pays, ils connaissent leur culture, ils connaissent leur traumatisme. Et puis, je suppose aussi qu'ils ne vont pas être dans un état d'esprit hyper productif. Ou même si on est sur des trucs un peu pragmatiques, nous, on est là en sécurité, en train de travailler. On a une capacité de production qui est peut-être meilleure que quelqu'un qui est sous les bombes, je ne sais où.
Mais pour nous, c'est anecdotique.
Pour eux, je pense que ça peut être leur quotidien.
Là, c'est pas à l'instant T.
Mais ça peut être une précarité ultérieure. Ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes soutiens financiers, les mêmes. Montage, il faut garder une équité vis-à-vis d'eux. C'est juste ça.
Après, au lendemain justement de la jeune architecture arabe, il y a un architecte qui a joué un rôle important, qui a été un partenaire de ce concours, qui était Mohamed Larbi Merhoum, qui m'a réécrit derrière et qui m'a dit « Alors, on recommence quand ?» Enfin, parce que vraiment, pour eux, c'était quelque chose de très positif, sans ingérence, justement.
Ça peut, mais c'est que, dans le cas dont tu parles, c'est une structure privée qui organise un concours pour que les personnes de ces pays, puis d'autres aussi, puissent réfléchir tous ensemble sur une thématique, s'exprimer, voilà, et valoriser ce qui peut être créé.
Non, en fait, ce concours-là, ceux qui postulaient envoyaient un de leurs projets, tout simplement.
C'est la valorisation de ce qui est fait là-bas. Alors, le cadre d'Europan, déjà, c'est quelque chose qui est identifié comme européen, donc il y a une polarité politique à la question. Donc, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, oui, c'est dans tous les cas, ça va être une richesse et ça va être quelque chose de très positif. Mais si c'est fait, ça doit être fait vraiment avec une grande subtilité dans la méthodologie. Ouais, c'est juste ça.
Enfin bon, il faut peut-être interroger les les décideurs.
Moi, je dirais que, en tout cas, en grande partie, le monde arabe est européen en quelque sorte, parce qu'on partage le méditerranéen. Et il y a beaucoup d'aspects de culture, de réponse au climat qui sont très pertinents. Et juste pour parler de l'inquiétude d'éducation des valeurs, je pense que ce serait très bien qu'on introduise différentes façons de voir le monde, en fait. Surtout dans un contexte où, climatiquement, on voit qu'on devient du sud en Europe progressivement. Du coup, en fait, il y a beaucoup de réponses qui sont là, qui existent, des solutions techniques, des approches à créer l'espace public, etc., qui seront extrêmement pertinentes dans les années à venir, je pense. Du coup, c'est pas simplement y aller et dans une posture de bienveillance promouvoir l'architecture arabe, par exemple. C'est plutôt de apprendre. Je pense que c'est ça où se trouve la vraie valeur d'un tel démarche. Et je pense que c'est peut-être une exagération. Je pense que c'est une exagération des gens qui dessinent sur des bombes. En fait, ces gens-là ont énormément de ressources. C'est pas forcément problématique, mais je pense qu'on va pas proposer un Europan à Gaza. C'est pas du tout le sujet, mais en fait, ces pays sont en traumatisme depuis l'époque coloniale. Et du coup, il y a une très forte relation entre nos histoires. Et on va avoir plus de relations dans le futur. Donc, je pense que, en effet, c'est très passionnant.
Écoutez, merci beaucoup pour ces éclairages. Et puis, restons l'esprit en alerte. Merci beaucoup.
Merci.
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 Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @commedarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.